donc avec Jonathan Larabie, pour Radio Grand Papier. Donc Jonathan, à l'occasion des 10 ans de l'employé du mois. Donc on voulait te poser des questions par rapport un peu à ton parcours en tant qu'auteur. Qu'est-ce qui fait que tu as commencé à faire du fanzine, de la bande dessinée? Quelles étaient tes motivations à l'époque? Quand est-ce que tu as commencé? Par quoi tu as commencé?
Bonjour David.
Bonjour Jonathan.
Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai commencé? Bon, je me souviens quand j'ai commencé. Ça, c'était quand j'ai eu 25 ans. J'avais besoin de faire quelque chose d'expression en fait, j'avais essayé de faire de la musique, j'étais peut-être pas extrêmement doué, et je lisais de la bande dessinée, et puis ça a dû correspondre à l'époque où j'ai découvert un petit peu les fanzines. Je ne me souviens plus exactement dans quel cadre je suis tombé sur les fanzines. Je me souviens les fanzines que j'ai découvertes. Je crois que j'ai commencé à lire de la BD un peu alternative à ce moment-là. Des choses comme les Freak Brothers et tout ça. Shelton, Crumb. Tout en commençant par... J'avais toujours été... Moi, j'ai lu tout Gaston Lagaffe. Quand j'étais petit, c'est des choses qui étaient très importantes pour moi. Puis petit à petit, donc, je suis allé vers des auteurs un peu plus underground peut-être. Mais bon, très reconnu, hein, comme Crumb, comme Shelton. Et ça doit être en cherchant dans des librairies, je me faisais des voyages à Paris, et en cherchant dans les librairies que je suis tombé, j'ai dû tomber coup sur coup sur les fanzines de Laurent Lolmed, les extraits naturels de Carnet, et surtout sur John Porcellino. J'ai dû tomber sur des fanzines de King Cat Comics, hein, qui ont été un choc absolu pour moi. Et là, je me suis dit... il faut que je dessine, ce que je faisais depuis que j'étais enfant, mais comme ceux qui dessinent quand ils sont enfants, c'est-à-dire au lycée, dans les marges, sans réel projet. Mais là, l'objet, la sobriété de l'objet, la simplicité du... deux agrafes, des feuilles de papier photocopiées, normalement, pas de couverture, un objet très très simple, et puis qui en même temps était extrêmement fort, extrêmement beau, c'était direct.
C'était en quelle année ça?
Donc ça doit être daté donc de... Je sais que le premier numéro de mon fanzine est sorti en mai 97, ça je m'en rappelle. C'était vraiment le mois de mes 25 ans. Je me suis dit allez, je passe à l'acte. J'écoutais beaucoup de musique, comme maintenant d'ailleurs, et donc j'étais un petit peu sensible à des choses, à des idées un petit peu d'indépendance et de do it yourself, des choses comme ça. Et là, ça m'est apparu comme évident. Voilà, tu peux fabriquer tes livres tout seul. Tu peux être complètement indépendant et autonome. Ce qui me sensibilisait, ce qui me plaisait énormément, c'était aussi le fait que ce soit un mode d'expression absolument personnel. C'est-à-dire que, voilà, John Porcellino, il dessine ses histoires, il va les photocopier lui-même. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça qu'il faisait. Je crois bien que c'est comme ça qu'il fait encore maintenant. Jusqu'à les agrafer lui-même, les plier lui-même. C'est-à-dire qu'il était responsable à 100% de tout ça. Et quand tu lisais, et quand toujours tu lis ses histoires... Il y a une transmission directe. C'est un moyen d'expression sans comité de lecture, sans gens qui doivent discuter entre eux pour dire tiens, est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas. C'est quelqu'un qui en conscience décide de montrer quelque chose, il est son propre juge et puis il le donne à un lecteur directement. C'est une transmission sans aucun filtre. Voilà, donc là, à ce moment-là, je me suis dit tiens, je vais aussi faire un fanzine. Et je tenais à ce que ce soit un fanzine personnel, hein, c'est-à-dire uniquement avec moi dedans. Les fanzines collectifs m'intéressaient moins parce qu'il n'y avait pas cet élan personnel et direct.
Ça s'appelait déjà la belle vie?
Non, ça s'appelait Rien Revu. Voilà, il y a eu trois numéros comme ça. Le troisième numéro, avait un titre un peu à tiroir du genre Rien Revu, c'était La Belle Vie ou quelque chose comme ça parce qu'à ce moment-là, le nom La Belle Vie, j'ai trouvé ça et je me disais, tiens, c'est ça que je veux faire. Donc il fallait que je change. puis comme je suis un tricheur, je voulais pas repartir d'une numérotation. J'avais déjà capitalisé 3 numéros de Rien Revu, donc il était hors de question de rattaquer un numéro 1. Donc le numéro 3, c'était Rien Revu, c'était La Belle Vie en même temps. Donc voilà.
Et pourquoi La Belle Vie?
Parce que c'est un horizon, c'est un projet, et puis c'est être... c'est parce que... Ouais, voilà, parce que c'est un projet. C'est un projet, et puis c'est très bien de... Quelle que soit la frugalité de tes moyens, puis quel que soit le... Même si c'est modeste, c'est ça, tu as le droit de tendre, d'où que tu partes, vers un horizon qui est celui-là. Et puis moi, c'est ce que je voulais, voilà. Donc là, voilà, je crois.
Il y a combien de numéros existants?
Alors, donc La Belle Vie, avec cette petite tricherie de numérotation du départ, il y en a exactement 12. Le numéro 12 vient de sortir, donc en Angoulême cette année. À côté, il y a eu des best-of, il y a eu des rééditions, il y a eu une série de petits livres à côté qui s'appelait les éditions Microbiens. Enfin, c'est vraiment, à chaque fois, je faisais des petits objets. J'avais tout un décorum et puis plein de titres ronflants pour annoncer ça. Donc, en tout, je pense qu'on n'est pas loin d'une trentaine de publications d'eau produite en fanzine, en fait.
Et tu as rencontré d'autres auteurs comme Gilles Rochier, BSK. Comment ça s'est passé cette rencontre? Et peux-tu nous parler un peu du premier Angoulême que tu as fait avec eux? Et si c'était d'abord c'était ton premier Angoulême, et comment ça s'est passé?
Alors, le premier Angoulême que j'ai fait en tant qu'exposant, c'était pas mon premier Angoulême. J'étais venu 2 ans avant. Parce que j'avais commencé donc je crois que c'est à ce moment-là que j'ai découvert, toujours par le même biais, des mêmes librairies, j'ai découvert Jade. Et donc Jade, c'était vraiment, il y avait cette chronique qui nous manque tous, je pense, qui s'appelait le Top 20, qui nous fédérait vraiment, et Jean-Philippe Garçon, il chroniquait avec beaucoup de curiosité. Les efforts de plein de gens un petit peu partout en France, en Europe, voire des fois c'était un peu plus loin encore, dans leur cuisine, dans leur coin. Donc c'était très intéressant de voir qu'en fait tu n'étais pas tout seul dans ton coin, qu'il se passait des choses. Ça parlait aussi bien entendu des festivals et de ces choses-là, donc j'ai commencé un peu à me promener. Je suis venu en festival à Angoulême en tant que lecteur, hein, tout simplement, pour la première fois en 98. Donc auparavant j'avais déjà, par le biais du Top 20, fait des commandes chez diverses personnes, et puis là ça a été un peu l'occasion de rencontrer ces gens en vrai. Donc moi je me rappelle de les gens que je suis allé voir, c'était Le Simo, donc voilà, il y avait Nilso et Jomanix derrière le stand.
Tu les connaissais déjà avant ou tu les as découverts là-bas?
Non, en fait j'avais acheté avant, mais on avait correspondu, j'avais fait mes commandes, envoyé mes petits chèques, et là je venais un petit peu de transi avec j'avais des petits fanzines, c'était la Belle Vie numéro 4 à l'époque. Et je suis venu leur donner, mais vraiment, j'ai acheté ce que j'avais acheté. Et au dernier moment, je leur ai donné en disant, voilà, je fais ça. Puis je me suis enfui comme un voleur, parce que je voulais pas que... Enfin, il fallait que cette étape-là arrive, qui m'identifie, qui se rappelle qu'on s'était écrit, mais je voulais pas... J'étais très intimidé, hein, tout simplement. Les autres gens que je suis allé voir, c'était Judith et Marinette, dont j'étais abonné. Mais donc, le contact ne s'était fait que par courrier. Puis je ne m'étais jamais signalé comme quelqu'un qui dessinait, en fait, à ce moment-là. Donc là, j'ai fait la même chose. J'ai fait... je crois que j'ai dû laisser, en fait, des fanzines. J'ai donné... Enfin, j'ai fait ma distribution cette année-là. Mais je me suis tenu à l'écart de tout ça, parce que c'était extrêmement intimidant...
J'ai fait pareil, exactement pareil. J'ai l'impression de me voir quand tu expliques Jomanix et Nils. Sauf que moi, j'avais pas de fanzine. Enfin, si, j'avais une petite feuille de papier. J'avais des petites. C'était Proulou, le truc que je vendais avec Stéphane Menu. Exactement pareil.
Et c'est quelle année que vous avez fait Spon? Parce que j'ai ce souvenir, moi.
Spon, c'était 99-2000. 99-2000.
Alors ça, ça a été ma première édition, ma première édition d'Angoulême en tant qu'exposant. C'est-à-dire donc je suis rentré chez moi avec ma petite pile de fanzine. Entre-temps, j'ai fait un ou deux autres festivals. Alors en tant que lecteur, je suis allé à Sierre à l'époque, festival de Sierre, c'était sympa. J'ai dû rencontrer quelques indés à ce moment-là. Pareil, je distribuais mes petits fanzines comme ça. Et puis en fait, grâce donc à une des toutes petites brèves de garçons. Qui est vraiment Jean-Philippe Garçon de Jade, quelqu'un qui semblait avoir la curiosité de mes produits parmi plein d'autres, hein, donc, et qui à chaque fois, bon, je l'envoyais, puis il écrivait un petit mot systématiquement, donc moi j'étais très content de lire ça. Il y a eu un festival de la micro-édition du fanzine à Bourg-les-Valence, festival qui par la suite, deux ans après, devait devenir la nouvelle BD, mais à l'époque c'était quelque chose de microscopique dans une MJC. Et il y avait une quarantaine de gens qui faisaient des fanzines, mais vraiment exclusivement du fanzine. C'était très, c'était pas de l'édition indépendante. Et j'étais invité là-bas. Et j'ai vu en fait dans la liste des invités qu'il y avait Gilles Rochier. J'étais très content parce que moi j'avais vu deux trois choses dans le top 20. Et notamment il y avait un petit encart dessin. Et ça me plaisait, ça m'accrochait. Je me disais voilà, une super occasion de rencontrer un gars avec qui à mon avis on pourrait avoir des choses en commun. Puis quand j'ai été à ce festival-là, eh ben Gilles n'était pas venu, il y avait eu un empêchement, donc j'étais un petit peu embêté. En rentrant, j'ai décidé de faire une commande, pareil, d'envoyer mon chèque. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, j'ai envoyé mon courrier, le lendemain j'ai reçu une lettre de Gilles Rochier qui me faisait une commande. C'est-à-dire que nos courriers se sont vraiment croisés, c'était assez incroyable. Donc j'ai reçu les fanzines et puis donc je me suis fait la réflexion que pour Gilles à l'époque comme il se représentait c'était rigolo, enfin physiquement je trouvais que ça me ressemblait, ça pouvait être moi, et j'étais pas le seul à me faire la remarque, on m'avait dit autour de moi, ma copine m'avait dit ça aussi, donc je me suis dit tiens c'est rigolo, je vais rencontrer un gars qui peut être mon sosie, puis on a plein de choses en commun, y compris notre profil et tout ça. Puis on a organisé une rencontre comme ça, enfin en aveugle, je suis allé à Paris, il m'a filé un rendez-vous à Paris, je suis allé le voir. Puis je suis tombé sur Gilles, qui n'est pas exactement mon sosie. Bon, ça c'est
même plutôt l'inverse, il est petit. Et...
ouais, un petit nerveux qui pétait d'énergie déjà, qui avait déjà une production. Ouais, je l'ai rencontré assez tôt, hein, je crois que je l'ai rencontré à l'époque du numéro 5 ou numéro 6 de son fanzine en fait. Et puis on a tout de suite accroché en fait, il y avait une compatibilité de caractère, on se marrait bien, etc. Les choses ont fait leur chemin et puis il y avait le festival d'Angoulême qui arrivait. Entre-temps, j'ai été dans un festival dans le sud de la France, je ne me rappelle plus le nom du festival, et là j'ai rencontré BSK. Et puis BSK, il n'avait pas d'endroit où dormir, moi j'avais un camping-car, donc voilà, je l'ai invité à dormir. Et puis bon, là, voilà, on a sympathisé à l'occasion de ce festival. Puis donc quelques mois après, quand Angoulême est arrivé, je me suis dit tiens, il faut qu'on... Cette fois-ci, on franchit le pas. Donc, on a pris un stand à trois, avec cette particularité qu'on était trois solosines, en fait. C'était ça qui faisait la différence qu'on proposait. Habituellement, enfin, les stands, c'est vrai que tu collectivises les moyens, c'est toujours plus pratique. Ça fait une revue qui est plus grosse, tu peux t'offrir de la couleur, tu peux payer un stand, c'est plus facile. Mais non, nous, on avait nos fanzines perso. Et ça, c'est un truc auquel j'ai toujours été extrêmement attaché. Faire un fanzine personnel. Une seule personne dedans. Donc, on a fait ce stand à Angoulême en l'an 2000. C'est là que je vous ai rencontré. À l'époque, je ne crois pas que ça s'appelait Employé du Mois. C'était Spon. Donc, c'était incroyable parce qu'il y avait des tarés qui avaient fait 52 numéros d'un fanzine pendant 52 semaines. On a fait des échanges, je me rappelle de toi à ce moment-là. Et puis nous, on est arrivé à un moment où, je sais pas, il y avait peut-être un cran entre deux générations, quelque chose comme ça, mais à l'époque, c'était identique. Ou alors peut-être que je réécris l'histoire en pensant uniquement à mes copains, hein, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas tant de gens dans notre sensibilité, en fait. Il y avait des fanzines très gravesines, très punk, mais dans la sensibilité qu'on a, qui est nous plus de, peut-être narrative, je dirais. Et puis sur des choses de relations humaines, je sais pas, de... On n'était pas tant que ça. Et donc, nous, on est arrivé avec notre stand. Et puis, on était nouveau. Les gens ne nous connaissaient pas. Donc, ça a énormément marché. Ça a été une édition incroyable. J'ai vendu des fanzines comme j'en vendrai absolument plus jamais. C'est, revenir à ces chiffres-là, ça n'existe plus, quoi. Et là, les gens, on a été un petit peu. Les gens sont venus nous voir, les gens qui étaient déjà là à l'époque. Les éditions Flubbelub, qui étaient un fanzine à l'époque, qui commençait juste à être un fanzine un peu, comment dire, un peu joli, mais c'est. Les couvertures en couleur, mais c'était encore assez. C'était agrafé, quoi. Judith et Marinette. Donc, Nilsou et Manix, les gens du Simo. Il y avait Alban de Stereos Comics. Et toute cette bande qui, un petit peu, qui s'est approchée de nous pour dire bon, vous êtes qui, vous Et le courant est bien passé.
Vous étiez à trois et ça. Vous étiez à trois et ça. Ça, ça a doublé les forces, comme ça, enfin triplé les forces, c'était très chouette. Qu'est-ce qui caractérise selon toi La Belle Vie ? Donc tu fais des récits autobiographiques, tu as fait des récits autobiographiques, des récits de voyage, maintenant tu fais de la fiction. Qu'est-ce qui motive ton envie de raconter en fait ?
Alors j'ai fait de l'autobiographie, je me suis représenté donc dans les premiers numéros. Puis assez vite, en fait, moi, j'ai eu envie de sortir de ça parce que je me méfie un peu de. Je suis lecteur par ailleurs d'autobiographie, mais je crains de. C'est quelque chose à manipuler. Il faut savoir exactement ce qu'on fait. Je suis pas sûr de savoir de pouvoir maîtriser ça exactement. Donc j'ai biaisé les choses assez rapidement avec. C'est vrai que j'ai fait un peu des reportages dessinés, des récits de voyage à l'époque. J'avais un boulot comme guide en fait, donc j'avais l'opportunité de voyager. Effectivement, je parlais à la première personne, mais je ne me représentais pas nécessairement. Puis bon, j'avais aussi dans l'objectif, dans le viseur, des géants tels que quelques Willem. Willem, dans ses carnets de voyage, c'est des carnets qui racontent beaucoup sur lui parce que c'est un point de vue éminemment personnel sur le pays qu'il visite. Et ça fait un voyage qui n'est que le voyage de Willem. Et où même si toi, tu le vois pas, en fait, Willem, il est là, il est vraiment présent. Donc ça m'intéressait. Puis par la suite, il y a eu l'Arabie en tant que création, en tant que personnage qui s'est un petit peu imposé. C'est-à-dire une espèce de grand mec, tout le temps fêtard, tout le temps un peu gaffeur à faire, ce que je ne suis absolument pas dans la réalité, bien évidemment, puisque je suis plutôt effacé, timide, taiseux. Et donc j'ai joué un peu avec l'Arabie en tant que personnage, mais c'est devenu un peu une création que j'utilise de temps en temps, puis maintenant quand même de moins en moins. Maintenant je mets ça à la fiction parce que c'est un autre métier, c'est intéressant le scénario, ces choses-là.
Il y a. Sur ton site, c'est jonathanlarabie.net. Ouais. Jonathan La Belle Vie.
Non, La Belle Vie a disparu en cours en fait. Alors de façon un petit peu. Il y avait un truc chez Jade. À chaque fois qu'ils faisaient une chronique sur La Belle Vie, ça commençait toujours comme ça. C'était les petits gars. Pendant ce temps, les petits gars de La Belle Vie nous ont fait. Ou alors la bande de La Belle Vie. C'est-à-dire que, en fait, moi j'essayais plein de choses. Il n'y avait pas de dessin qui se cristallisait, il n'y avait pas un seul dessin, il y avait plein de choses différentes. Et ils étaient persuadés en fait qu'on était 50, c'était un fanzine collectif comme tout le monde faisait. Quoi. C'était, et pendant tout un premier temps, ça me plaisait, puis rien n'était signé en fait dans La Belle Vie, jamais. Et puis dans un second temps, je me suis dit, zut, j'aimerais bien être identifié en tant qu'un seul individu. Quoi. Ça devenait un peu... ubuesque en fait, il y avait même des gens dans ma ville qui me croisaient, bon je les posais un peu à droite à gauche et qui me disaient ah mais toi t'es un des mecs de La Belle Vie, donc c'était plutôt marrant, donc je me suis dit bon allez maintenant je vais signer en fait, donc je me suis voilà j'ai décidé de signer et dans ce contexte c'est peut-être à ce moment là en fait que non c'est venu après les sites internet, mais La Belle Vie s'est perdu un peu en route à ce niveau là à des fins vraiment triviales de communication, je pense, hein, tout simplement.
Parce que donc sur ton site qui est assez original dans le sens où bon, tu arrives, y a une, sur la page homepage, il y a une photo généralement qui change tous les X temps. Il y avait une photo récemment en fait, où, une assez belle photo où on voit que tu as mis par terre sur le sol toutes tes productions comme ça, comme une sorte de je sais pas, de bilan, mais je voulais savoir un peu dans quel pourquoi t'as pris cette photo, si c'était voilà pour toi, pour montrer aux autres. Et on voit effectivement dans ces productions que tu essayes plein de choses plein de formats, des papiers différents, des matières différentes, des couleurs différentes. Voilà, donc je voulais un peu savoir pourquoi tu as fait ça.
Alors, le site, je m'en sers, donc effectivement, c'est, je m'en sers comme une espèce de journal visuel qui est muet, contrairement à moi. Je communique sans, y a pas de texte en fait, c'est comme une espèce de pile de photos, et je mets une photo de temps en temps. Alors ça peut être une photo de ça peut être les conditions climatiques, ça peut être 30 cm de neige comme on a eu il n'y a pas longtemps chez moi, ou ça peut être un travail en cours. Je mets pas trop de bande dessinée en ligne en fait, je suis super attaché. C'est le papier, hein. c'est le fanzine, je tiens à ça. L'habitude de lecture sur écran me gêne, je le fais, mais je pense que l'objet doit naître en papier. Donc je mets en gros je mets des crayonnés, des travaux en cours pour montrer que je suis en train de travailler. C'est de la communication pour dire les gars, je suis là, j'arrive. Et cette photo, ouais, particulièrement, c'était là à la fin de cette année. C'était exactement un bilan parce que je voyais arriver Angoulême. J'avais pas fichu grand chose encore cette année. Je me suis dit, bon, il est temps quand même là. Donc j'ai un peu regardé derrière moi ce que j'avais fait. Tous les objets qui sont sur cette photo, en fait, ils n'existent plus. C'est tous des trucs épuisés. Moi, je retire très rarement, en fait. J'avais fait un carnet qui avait vraiment bien marché, donc que j'ai retiré. Mais sinon, comme j'estime que j'apprends encore beaucoup à dessiner, quand quelque chose est épuisé, ben, c'est une bonne chose. Et plutôt que de le retirer, ben, j'en dessine un autre, qui est forcément mieux. Donc... ce que j'ai avancé, donc là c'était un bilan pour dire bon voilà ce que j'ai fait, maintenant allez on s'y remet. Ce site, c'est à la fois une façon de montrer aux gens que j'y suis, que je suis au travail, et à la fois une façon de moi de m'aiguillonner un petit peu, de me dire allez mon gars, bouge-toi. Donc il est vraiment à l'intention de mes collègues aussi auteurs ou qui font des copains autour de moi, qui eux-mêmes dessinent, pour dire voilà, j'arrive à Angoulême cette année, j'aurai ça et puis ça et puis ça. Et puis bon, les gens effectivement qui sont lecteurs, ils peuvent voir qu'il se passe des choses, qu'il y a des petites nouvelles, que c'est en train d'arriver.
Tu sais combien de gens viennent sur ton site?
Non, pas du tout. Il y a eu une époque où je regardais, enfin dans une version précédente de ce site, j'allais regarder les statistiques, mais là je sais pas du tout, je m'occupe pas de ça. Et puis vraiment, sincèrement, ça voudrait pas dire grand chose de toute façon, parce que bon, là, sur le mois de janvier, j'ai dû faire 19 nouvelles entrées, parce que je travaillais beaucoup. Mais il peut y avoir une entrée toutes les 6 semaines, sinon, enfin, dans l'année, au creux de l'année, là, j'étais vraiment pas actif, donc il se passe rien pendant de longues semaines, donc voilà quoi.
Comment tu travailles ton dessin, en fait, et ton... Oui, enfin... J'ai l'impression que tu t'intériorises beaucoup, donc... Enfin, tu m'as déjà expliqué un peu, j'aimerais bien que tu le réexpliques, mais que tu intériorises beaucoup ton dessin, enfin, que tu essaies de visualiser d'abord comment il va sortir avec ta plume. Je sais pas comment tu travailles avec la plume d'abord, ou le pinceau, et je voulais que tu parles un peu de ça, cette façon de dessiner qui est assez particulière, enfin la préparation du dessin, je sais pas...
Alors je sais pas si ça tenterait au dessin que ça, je crois que c'est un problème de procrastination en fait. J'ai tout le temps une crainte de m'installer à ma table à dessin, donc il y a beaucoup de choses en amont, il y a une frustration en fait, il faut que la frustration monte jusqu'à ce que je me dise bon allez maintenant on s'y met, et ça passe par beaucoup de temps à penser comment je vais faire mais à pas faire, et en tout cas c'est ce que je croyais que je faisais pas. Puis en discutant avec d'autres gens, je me rappelle cette discussion avec Big Ben par exemple, j'ai fini par comprendre que c'était un temps nécessaire en fait de maturation. Je m'aperçois que je peux ne pas avoir dessiné pendant... Il m'est arrivé de ne pas dessiner pendant des semaines, voire des mois. Mais quand je reprenais mon crayon, il y avait des choses qui s'étaient passées dans mon trait. Et je voyais que le travail avait été fait quand même. Donc ça veut dire beaucoup regarder les choses peut-être, réfléchir aux choses... J'ai besoin de garder. Il y a une pression qui monte, et quand cette pression elle devient intolérable, on y va. Bon, à part que ça prend quand même, ça finit par prendre des aspects un peu pathologiques, et j'en ai un peu marre de ça. Je suis un peu fatigué de ça, donc là je sais que ces temps-ci les choses bougent de ce côté-là, parce que j'en ai marre en fait de retenir tout le temps comme ça, et puis d'être absolument pas productif. Là je voudrais laisser aller un peu plus les choses, et faire un peu, puis avec l'humilité de me dire, ben voilà, tiens, c'est un peu à moitié raté ça, mais la prochaine fois, ça sera mieux, puis c'est là, quoi. Et puis même techniquement, ouais, effectivement, il y a des choses qui m'ont aidé à ce niveau-là. J'ai récupéré une table lumineuse, là, cette année. Et bon, ça peut paraître... Enfin, je crois que ça a déterminé pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, parce que moi, je dessine tout le temps au crayon. C'est important. Je suis vraiment de ces gens qui crayonnent. C'est super nécessaire pour moi. Et en général, je crayonne jusqu'à ce que je sois content de mon crayonné. Mais avant que cette table lumineuse, il y avait vraiment une deuxième étape qui était très douloureuse, qui était celle de l'ancrage. Je travaillais avec une plume. Et puis, c'est quelque chose de dur. Et puis, c'est encore plus dur si tu es crispé, parce que tu as peur de planter ton dessin. Ce qui est à peu près la plus sûre façon de le planter. Donc, quand je faisais très traditionnellement ancré par-dessus mes crayonnés, il y avait un nombre de fois non négligeable où je m'arrachais les cheveux en disant « mais j'ai tout foiré ». Mais tout simplement parce que j'avais peur, en fait. Mon poignet, je tenais, j'étais crispé et ça va pas bien, quoi. Et cette table lumineuse, là, moi, elle me libère complètement. C'est-à-dire que j'ai mes crayonnés, je pose une autre feuille dessus et j'y vais à la plume. Alors là, par contre, j'y vais franco, je vais vite. Je laisse les choses se faire un peu salement. Parce que je veux garder cette vivacité qu'il y a dans le crayon, cette spontanéité. Je veux absolument pas figer les choses. Et donc là, cette technique de la table lumineuse m'a beaucoup aidé cette année.
Je trouve ça assez intéressant que tu vas peut-être à contre-courant d'une certaine tendance aussi qui veut que on y va spontanément, on dessine au feutre, au bic. Toi, tu fais des crayonnés, tu travailles les crayonnés comme ça dans le monde du fanzine, enfin des zines ou des trucs indépendants, c'est assez peu commun en fait. Et aussi même tes sujets, par exemple. Oui, tu abordes de moins en moins l'autobiographie, il me semble, et si ce n'est pour déconner une fois sur un dessin ou deux. Et par exemple, en ce moment, là, tu as sorti le dernier numéro de La Belle Vie, ça s'appelle L'Armée du Mexique, c'est ça? Ouais. Et tu travailles aussi en feuilleton, donc ça, c'est nouveau aussi pour toi, un feuilleton. Et donc, ce que tu disais par rapport au fait que tu en étais un peu fatigué, enfin que tu as envie que te donner des marges de dessiner et puis de voir un peu comment de faire de mieux la prochaine fois, ça se traduit là-dedans peut-être dans l'armée du Mexique.
L'armée du Mexique, ça fait état de pas mal de fatigue en fait, moi de mes frustrations et de mes fatigues et de ma colère même tout simplement pour mon boulot alimentaire, il m'use. Il me fatigue, il me fait du mal et tout ça. Enfin, ça fait ça à plein de gens, hein. Mais bon, moi, j'ai juste la chance de. En tout cas, je me sers du dessin pour me débarrasser de certains trucs, de certaines tensions. Et puis, effectivement, peut-être que le feuilleton, ça permet de moins cristalliser sur chaque case. Parce qu'il faut que l'histoire, elle file, il faut qu'elle coule, en fait. Bon, je suis un trentenaire, on est quelques-uns à avoir été depuis 10 ans complètement modelés en fait par nos habitudes culturelles entre guillemets. Et, bon, la série télé, elle est passée par là, il y a toute une nouvelle génération de séries qui sont arrivées, qui sont de bonne qualité en fait. Où on n'est plus du tout dans l'ersatz du cinéma, mais on peut proposer quelque chose de la longue durée, soit vraiment de qualité. Moi j'ai fait comme beaucoup de gens, j'ai regardé ces trucs là et j'aime bien parce que voilà, ça file. C'est une sacrée, je pense, une sacrée école de scénario et qui forcément sinon m'influence, en tout cas me donne envie. Donc je me suis dit, ben voilà, on va aller raconter des histoires et des choses vont arriver, et peut-être une petite réaction pas consciente, mais par rapport à, c'est vrai que dans l'univers dans lequel on évolue là, nous, le fanzina indé auteuriste, il peut y avoir des fois où on se coince dans un espèce de formalisme un peu artistique et esthétisant, et l'école du feuilleton, c'est prendre des choses et dire ouais, il y a ce mec là, il lui arrive des trucs, et puis il y a ça qui arrive, et puis attention, oh, qu'est-ce qui va se passer, je tourne la page. C'est pas mal de faire quelque chose qui file comme ça. En tout cas, je pense que j'ai beaucoup à apprendre de ça. J'aimerais voir si je suis capable de feuilletonner comme ça, en fait.
Tu sais déjà comment l'histoire va se terminer et combien il y aura de d'épisodes?
Ouais, je vais me rendre à mon boulot avec un fusil et je vais tuer tout le monde, mon patron à la fin. Voilà, et je passerai à la télé ensuite. Je ferai un livre depuis ma prison. Je serai célèbre.
L'expérience d'édition ultime, quoi.
Voilà, et ce qui sera super, c'est que tout était raconté dans mon fanzine.
Génial. En tout cas, on se rend compte à quel point, en fait, la belle vie, pour toi, c'est une multitude de formats, de types de récits, et que c'est, en fait, des expérimentations que tu te proposes à toi-même un peu pour... Pourquoi ? Pour te découvrir, pour savoir qui tu es, pour voir de quoi tu es capable. Enfin, moi, c'est un peu cette impression que j'ai, que c'est quelque chose justement que tu veux garder vivant, quoi. Une production vivante, c'est peut-être la belle vie, c'est très bien.
Alors, je me méfie un tout petit peu du mot expérimentation, parce que je crois pas être dans un travail, infiniment formaliste ou cérébral. Mais par contre, c'est vrai, c'est un atelier un petit peu. De toute façon, je crois que c'est à ça que nous servent nos revues. C'est, ouais, j'ai envie d'essayer quelque chose, ben, je l'essaye, en fait. Je m'interdis pas d'essayer. Et oui, merci du compliment. J'espère que ça va, que c'est quelque chose. Si ça donne l'impression que c'est vivant, ben, tant mieux, hein, parce que mes efforts, ils sont dirigés dans cette direction.
D'accord. J'ai donc encore deux questions. La première, un livre de bande dessinée qui te tient à cœur, qui te marque, quand ça peut être quand tu étais tout petit ou plus récemment, ou il y a 10 ans, mais quelque chose qui te tient un peu comme ça, auquel tu penses régulièrement, voilà, un truc, voilà.
Non, ça c'est quelque chose que il y a beaucoup trop de livres, en fait. Il y a beaucoup trop de livres, et le fait est qu'il n'y a pas un livre en tant que tel qui est un phare pour moi parmi d'autres. Il y en a plein. Il y a énormément de gens alors récemment, bon, s'il faut répondre de façon un petit peu, je vais quand même essayer de répondre un peu. Récemment, je me suis régalé en lisant les livres de Joe Daly, comme beaucoup de gens, parce que ce type est ultra talentueux, et puis c'est ultra jouissif surtout de lire ses pages. Elles sont jubilatoires. On éclate de rire à chaque page. On se dit, il s'autorise tout. C'est super libérateur. Donc des gens fondateurs, hein, j'ai commencé à le dire. Porcellino, ça a été une révélation pour moi, et je suis toujours un lecteur de Porcellino. Mais moins, plus important, en fait, que les livres, c'est les gens qui dessinent. C'est une histoire d'amitié pour moi, le dessin, en fait. Porcellino.
C'est pas une excuse-moi, je t'interromps, mais est-ce que c'est pas une question d'attitude aussi, une cohérence dans le travail des gens que tu admires, ou une attitude?
En fait, Nilsson, une fois, on a discuté avec Nilsson, je me rappelle de ça, il m'a raconté ça il y a très longtemps, et il m'a dit, moi, je ne lis que les gens, que les livres de mes copains, ou plus précisément, je ne lis que les livres des gens que j'aime bien humainement. Et à ce moment-là, je me suis dit que c'était la chose la plus stupide du monde, et maintenant, je pense que c'est la chose la plus maligne du monde, en fait. C'est ce que je m'aperçois de ça. Porcellino, je continue à le lire, et puis c'est pas un hasard si... On a fini par se rencontrer après s'être longuement écrit. C'est pas un hasard si je distribue ces King Cat aux librairies. C'est pas un hasard si je continue, et que je continuerai toujours, tant que ça existera en tout cas, à publier dans le journal de Juste et Marinette, parce que les gens qui sont dedans sont mes amis. J'admire leur travail. Mais je me sens... la cohérence, elle est surtout là pour moi, en fait. Il n'y aurait pas de cohérence pour moi à aller proposer mes pages. Je crois avoir la possibilité de proposer mes pages un petit peu à droite, à gauche, dans d'autres revues, indé, fanzine, je pourrais. Mais la cohérence, c'est de continuer à faire mes pages à côté de celles de Jacques, donc de Naz, de Tofépi, de Sébastien Lumineau. Parce que j'admire leur travail, parce que je me suis construit à côté de leur travail, parce qu'il y a des perméabilités qui se sont créées, je crois, et je me sens à ma place à cet endroit-là, et donc, ben voilà, je lis les livres qui comptent pour moi sont les livres de gens qui comme par un fait exprès, ben, humainement, j'estime, et même j'admire artistiquement, mais que j'estime aussi humainement, ça doit aller de pair, en fait, je crois.
D'ailleurs, le journal Judith et Mernet qui t'a publié, qui ont publié. Ça me tombe juste dans le dessus maintenant, rappelle-moi.
Mon premier livre, c'est En Bulgarie.
En Bulgarie.
Voilà. Et c'est le journal de Judith et Mernet, c'est les éditions des Taupes qui ont publié En Bulgarie.
Un très beau livre avec des coins arrondis.
Merci, merci. Il y a une très belle fabrication, effectivement, parce que ces gens-là, à Auto, ils sont, c'est des maniaques de l'objet bien fini. Ils vont pas, il y a une chose qu'on peut dire d'eux, c'est qu'ils s'épuisent pas en communication, ça c'est certain. C'est pas les meilleurs promoteurs de leur travail, parce qu'ils estiment tout simplement que ce qui doit être le meilleur promoteur du boulot, c'est le livre bien fait, le mieux qu'on puisse le faire. Et c'est ce qu'ils font. Donc, c'est une chance dont j'ai conscience tous les jours, hein, d'être dans cette équipe, d'être auteur dans cette équipe. J'en suis très content, ça c'est sûr.
Alors, une dernière question par rapport aux 24 heures de la bande dessinée. Qu'est-ce que tu penses de ce phénomène? Est-ce que tu as déjà fait un 24 heures de la bande dessinée? Est-ce que tu as envie d'en faire un? Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu détestes ça? Est-ce que ça te laisse complètement indifférent?
Alors, ça me laisse pas du tout indifférent, 24 heures de bande dessinée, j'en ai jamais fait. Alors, je sais pas où est la vérité. Si c'est que j'ai simplement peur de que ça me tue artistiquement, si ce n'est physiquement, d'essayer d'en faire, parce que si ça commence à 8 heures du soir, je m'imagine vers 1 heure du matin, avec 6 pages mal branlées, en train de lever la tête, ayant bu 2 litres de café, me mettre à regarder d'un air paniqué tous ceux qui travaillent autour de moi, puis hurler de terreur et me balancer à travers une vitre. Puis là, ça irait pas, parce qu'il faudrait que je change de continent, que je disparaisse, que je réponde plus à mes emails, je serais humilié à jamais. Mais en fait, ça n'a rien de personnel. C'est... Non, je crois que les 24 heures de la bande dessinée, on se trompe en fait. C'est pas ça le dessin. Les 24 heures de la bande dessinée, j'ai l'impression, je sais pas si c'est conscient ou pas, mais c'est une façon de spectaculariser le dessin. Pourquoi on fait Angoulême des concerts de dessin? Ça veut dire quoi ces trucs-là? On sait tous, si on dessine un petit peu, ce que c'est que le dessin. C'est être à sa table, tout seul, s'emmerder à son soudeur et faire un travail appliqué. C'est un travail de longue haleine. C'est pas un concert de rock, c'est pas une démonstration, c'est pas... Et donc moi j'aime pas tellement ce côté démonstratif, j'aime pas tellement ce côté solo de guitare finalement. Les 24 heures de la bande dessinée, hein, j'aurai le temps de changer d'avis quand je me serai entraîné tout seul dans mon coin et que j'y arriverai. Là je viendrai peut-être essayer, mais là pour l'instant j'ai un instinct de conservation qui fait que j'ai pas tellement envie d'y aller. Et puis, si j'y réfléchis, je me demande, je sais pas, je vois qu'il y a cet engouement depuis quelques années. Je pense que il y a peut-être une erreur. On est peut-être en train de se tromper sur ce que c'est que la bande dessinée. C'est peut-être un travail qui se fait à une autre échelle et avec un autre temps, un autre rythme. Je suis pas sûr. Il y a des gens qui s'en sortent extrêmement bien. Je pense pas que ce serait mon cas et je pense pas que ce serait pertinent. Je peux me tromper.
Ouais, on verra. Mais le temps peut-être que tu te décides à éventuellement essayer, bah ce sera fini, il n'y en aura plus jamais parce qu'on aura compris que c'est...
Des menaces?
Non, pas du tout. peut-être que ça ne va pas durer, c'est peut-être une mode de passage. En tout cas, je pense que ça reste intéressant pour l'instant.
Appelez-moi pour les 24 mois de la bande dessinée.
Ça va.
S'il y a à manger, je viens.
Des pizzas. En tout cas, merci Jonathan et à bientôt.
Merci David.